Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au moment où nous reprenons la lecture du livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani, édition Grasset dans le livre de poche, Léna est sortie de l'hôpital. Elle a failli se noyer. C'est grâce à une enfant qui jouait au cerf-volant sur la plage et qui a appelé au secours la Red Brigade que Léna a pu être sauvée. Nous allons la retrouver à l'hôtel 2 jours après qu'elle ait été sauvée de la noyade. Écoutez plutôt. De retour à l'hôtel, elle passe 2 jours et 2 nuits à dormir, comme si son corps enfin consentait au repos après avoir côtoyé la mort. À l'aube du 3e jour, elle s'éveille étrangement délassée. Du balcon de sa chambre, elle observe la mer impassible, indifférente à ses tourments. Elle a failli mourir et n'en conçoit nul effroi. Depuis quelque temps, elle se sent même attirée par cette perspective sans avoir le courage de l'envisager vraiment. L'idée de vivre la terrifie davantage qu'une fin choisie. Pourquoi a-t-elle été sauvée ? Se demande-t-elle. Quel caprice du sort a décidé de la maintenir en vie ? Elle songe aux filles aperçues à l'hôpital. Ce sont elles qu'il faudrait remercier et non le dieu à 4 bras dont elle a souvent vu la représentation en lotus dans les salles de yoga qu'elle a fréquentées. Elle descend à la réception interroger le concierge de l'hôtel qui l'accueille avec obséquiosité. À l'évocation de la Red Brigade, il se rembrunit. « Tout le monde connaît la brigade ici, commente-t-il. Un groupe de filles pratiquant le self-défense et qui s'est donné pour mission d'assurer la sécurité des femmes du quartier. » Elles patrouillent sur la plage et dans les rues du village. On les croise aussi près du marché. Il lui déconseille toutefois de s'en approcher si elle ne veut pas s'attirer des ennuis. Leur chef est une tête brûlée bien connue des forces de police qui voit d'un mauvais œil la justice parallèle qu'elle entend faire régner. Malgré ces mises en garde, Léna décide de retrouver les filles de la brigade. Comment leur exprimer sa gratitude? Après réflexion, elle attrape une enveloppe et la remplit de billets. Dans ce village où la plupart des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, une contribution financière sera sûrement appréciée, se dit-elle. Elle hésite sur le montant. Combien donne-t-on pour une vie sauvée? Combien vaut la sienne? Quelques milliers de roupies plus tard, Léna quitte l'hôtel et gagne la plage. Elle déambule sur le sable, scrute les individus qui s'agitent çà et là. Aucun signe de la petite troupe. Elle s'adresse à un groupe d'hommes sans âge, en train de rapiécer des filets. Ils ne parlent pas anglais. Un peu plus loin, des femmes vendent aux enchères du poisson fraîchement pêché et des langoustes aux reflets argentés. Léna les interroge sans plus de succès. Elle longe les restaurants aux enseignes colorées qui jouxtent le rivage. Les cahutes proposant des jus de fruits pressés, les cabanes vendant des cacahuètes et des coquillages peints, les ateliers de réparation de bateaux où des ouvriers s'activent autour d'embarcations à la proue élancée. Des gosses courent après un ballon, slalom entre les vaches aux cornes décorées qui paraissent allongées près de l'eau. Léna s'étonne de ce curieux spectacle auquel tout le monde semble habitué. Elle arrête les gamins pour les questionner, mais ils secouent la tête et reprennent leur course effrénée. Quittant le bord de mer, elle s'enfonce dans un enchevêtrement de ruelles où se succèdent vendeurs de dosas, ressemeleurs de chaussures, échoppes dans lesquelles des hommes en sueur manipulent d'énormes fers à repasser, des boutiques aux couleurs défraîchies proposant indifféremment des épices, des sculptures, de l'encens, des piles, des pâtisseries ou des couches pour bébés. Tout ce que l'Inde produit, invente ou recycle se trouve là, dans ces vitrines couvertes de poussière où le temps semble s'être arrêté. L'une d'elles exhibe même une série d'yeux en verre et même de dentiers d'occasion, que Léna détaille avec stupéfaction. Des rickshaws lui bloquent le passage. Des chiens errants la frôlent. Des scooters klaxonnent bruyamment en lui criant de se pousser. Elle finit par déboucher sur la place du marché où s'entremêlent des étals de fleurs, de fruits, de poissons frais. Mille couleurs, mille senteurs la saisissent, saturent ses sens ébahis dans ces allées grouillantes de monde et bourdonnant de bruit. Elle déambule parmi la foule au milieu des habitants chargés de sacs et de paniers. L'endroit a des allures de fourmilière. On s'y presse pour y acheter lentilles, patates douces, jalebis fraîchement cuisinées, pigments de couleur, étoffes, thé, noix de coco, cardamome ou poudre de curry. Léna observe un homme occupé à tresser une guirlande de hyé lorsque son attention est attirée par une étrange procession. Non loin, une quinzaine de filles, munies de banderoles et de photos, arpentent les allées en scandant « Justice for Priya ». Les images montrent une jeune Indienne, visiblement victime d'un viol en réunion. Léna reconnaît immédiatement la troupe de l'hôpital. En tête de cortège, leur chef mène la danse tambour battant. La peau foncée, les yeux noirs, elle est animée d'une ferveur communicative, d'une autorité naturelle qui la rend intensément présente, attire les regards des passants qui s'arrêtent pour l'écouter. En dépit de son jeune âge, elle ne doit pas avoir plus de 20 ans, elle dégage une étonnante maturité. Léna ne comprend pas un mot de son discours, mais elle paraît fascinée par son assurance et son énergie. La manifestation est bientôt interrompue par un agent de police qui entreprend de la disperser. La meneuse refuse d'obtempérer. Sa bande se rassemble autour d'elle pour lui prêter main forte. Le ton monte. Des badauds s'en mêlent, prenant fait et cause pour ou contre elle. Dans un mouvement de colère, l'agent saisit les tracts des mains des militantes et les éparpille aux quatre vents. Nullement impressionnée, la chef se met à crier, le couvrant d'une série d'insultes qui se passent de traduction. Elle paraît incroyablement forte, prête à contrer tous les assauts, toutes les tentatives d'intimidation. Après quelques minutes au cours desquelles l'issue de l'affrontement paraît incertaine, le policier finit par s'éloigner en la pointant du doigt et il lui lance ce qui ressemble à un avertissement, à moins que ce ne soit une menace. D'un air indifférent, la fille hausse les épaules avant de ramasser les prospectus qui sont éparpillés par terre. Léna en saisit un tombé à ses pieds. On y voit la photo du groupe en posture de combat, surmontée d'un logo rouge et noir où s'entrelacent des visages féminins autour d'un poing dressé. « Don't be a victim, join the Red Brigade !» clame le slogan. Chapitre 3. Lorsque Léna l'aborde, la chef semble la reconnaître immédiatement. C'est bien elle, l'occidentale, la rescapée de la plage. Les filles se pressent autour d'elle avec curiosité. Léna explique qu'elle est venue les remercier. Acquiesçant d'un simple hochement de tête, la meneuse grommelle quelques mots en anglais sur l'imprudence des touristes qui se croient au-dessus du danger. Et elle reprend ses activités. Elle est en train de ramasser les tracts dispersés par le policier. Elle n'éprouve visiblement ni sollicitude ni intérêt pour Léna. Un peu déstabilisée, celle-ci sort l'enveloppe de son sac et la lui tend. La chef l'observe longuement en haussant les épaules et lâche « On n'a pas besoin de ton argent !» À cet instant, Léna réalise ce que son geste peut avoir de maladroit ou de déplacé. Son enveloppe à la main, elle se tient là au milieu du marché, dans une posture qui doit passer pour de la condescendance, voire de la pitié. Elle se reprend aussitôt et s'explique. L'argent n'est pas pour elle, mais pour la brigade, pour la cause qu'elle défend. Tentative inutile. La jeune femme est fière. Elle n'accepte pas l'aumône, encore moins venant d'une étrangère. L'une de ses acolytes lui glisse quelques mots à l'oreille en désignant l'argent, mais l'autre la fait taire. Léna admire son aplomb. Il y a dans son refus une forme de noblesse qu'elle comprend et respecte. « Si tu veux aider quelqu'un, donne-le à la gosse. C'est elle que tu dois remercier. » finit par lui lancer la chef avant de s'éloigner. Léna se retrouve seule dans l'allée avec son paquet de billets. Elle s'apprête à rebrousser chemin lorsqu'elle est accostée par une mendiante qu'elle n'a pas vue approcher. D'une maigreur effrayante, la femme tient un bébé famélique dans les bras et s'agrippant à la chemise de Léna, agite sous son nez un biberon vide couvert de morve et de saleté. Il est difficile de lui donner un âge tant elle paraît ravagée par la faim, l'extrême précarité. Elle n'a rien à manger et rien à donner à son enfant. Il n'y a plus de lait en son sein desséché qu'elle exhibe à travers sa tunique déchirée. Léna est saisie à la vue de ce corps efflanqué, de ce tout petit qui n'arrête pas de pleurer. En un éclair, des gosses sortis de nulle part l'encerclent, s'accrochent à ses vêtements. Léna est pétrifiée, paralysée devant leurs mains tendues, leurs regards implorants. Dans sa poitrine, son cœur bat à tout rompre, elle a du mal à respirer. Elle abandonne ses billets aux gamins qui se les disputent en hurlant, jouent des ongles et des poings pour récupérer leur part de butin. D'autres se pressent vers elle pour en demander plus encore. Cernée de toutes parts, Léna est incapable de bouger, de s'enfuir comme de répondre à cette détresse qui la terrifie. Elle sent venir la crise de panique. Sa vue se brouille, ses oreilles se mettent à bourdonner alors qu'elle tente d'échapper à l'émeute qu'elle vient de provoquer. Elle ignore comment elle retrouve le chemin de l'hôtel. Tremblante, elle monte s'enfermer dans sa chambre et avale des cachets pour se calmer. La distance, croyait-elle, l'aiderait à panser ses blessures, à se relever. Elle s'est trompée. Elle se sent plus mal encore qu'à son arrivée. Elle maudit le jour où elle a mis le pied dans ce pays. Ici, tout lui est hostile, violent. La misère, le tumulte incessant, la foule qui se presse partout. L'Inde rend fou, a-t-elle lu un jour. Elle comprend le sens de ces mots à présent. Face à la détresse des enfants, elle s'est trouvée désarmée, impuissante à crever. Elle aimerait chasser de son esprit l'image de la mendiante et de son bébé, de ses gosses se battant pour ses billets. Elle va rassembler ses affaires, monter dans le premier avion et rentrer. Elle doit se sauver avant que ce pays ne la broie tout entière. Léna se fige soudain à la perspective de regagner sa maison, déserte et glacée, où plus personne ne l'attend désormais. À bien y réfléchir, le silence l'effraie plus encore que le bruit. Une vision la tire de ses pensées. Par la fenêtre, elle vient d'apercevoir un point multicolore dans le ciel. On dirait un cerf-volant en train de danser dans le vent, juste au-dessus de l'océan. En un instant, Léna oublie ses élucubrations. Elle quitte précipitamment la chambre, descend sur la plage et s'élance en direction de l'enfant. La petite ne l'a pas remarqué. Elle a rangé son jouet et s'éloigne vers l'un des restaurants qui bordent le rivage. Un daba d'aspect modeste où elle ne tarde pas à disparaître. Un daba, c'est un restaurant de rue ou de bord de route. Léna lui emboîte le pas et s'approche de l'entrée. Un panneau accueille les clients d'un surprenant « Bienvenue chez James et Mary ». Tandis qu'un autre détaille l'unique menu proposé, du poisson grillé accompagné de riz et de chapatis. Les peintures ont subi l'outrage du temps et peinent à masquer la vétusté du bâtiment. Il ressemble à une vieille dame qu'on aurait tenté de maquiller un peu naïvement. Léna pénètre dans la salle où tout est calme à cette heure. Le coup de feu de midi est passé, les clients du soir ne sont pas encore arrivés. Un homme replé sommeille devant un poste de télévision diffusant un match de kadabi. C'est un sport de combat très populaire en Inde. Non loin, un ventilateur sans âge brasse un air lourd chargé d'odeurs de cuisson qu'il ne parvient pas à dissiper. Léna observe avec curiosité la statue d'une Vierge Marie, parée d'ampoules clignotantes près d'un Christ en croix du même acabit. Pris d'une éructation soudaine, l'homme s'éveille dans un raclement de gorge spectaculairement gras lorsqu'il aperçoit Léna. Se redressant aussitôt, il l'invite à prendre place, mais elle explique qu'elle n'est pas venue pour manger. Elle voudrait voir la petite fille qui vient d'entrer. Le tenancier ne saisit pas. Il ne parle pas manifestement anglais. L'échoppe doit accueillir plus de locaux que d'étrangers, se dit Léna. L'homme insiste, répète quelques mots appris par cœur en désignant la mère. « Fresh fish !» Il disparaît alors en cuisine et revient, chargé d'une assiette garnie d'un poisson fraîchement pêché. Léna comprend qu'elle n'aura pas gain de cause et finit par abdiquer. Après tout, elle ne se souvient pas d'avoir mangé de la journée. L'appétit, elle l'a perdu il y a bien longtemps, par un après-midi de juillet. Obéissant au patron, elle gravit quelques marches et se retrouve sur le toit du daba aménagé en terrasse. De là, on voit la mer. C'est le seul attrait de l'endroit. La décoration est sommaire, des tables et des chaises abîmées. Des guirlandes ont été accrochées çà et là, semblables à celles qui ornent les frontons des temples, dans une vaine tentative de donner au décor un air de fête à la nuit tombée. Perdue dans la contemplation de l'océan, Léna n'entend pas l'enfant arriver. La petite surgit, sans bruit, chargée d'une panière remplie de chapatis. À la vue de Léna, elle se fige, stupéfaite. Elle la reconnaît, assurément. Léna sourit, lui fait signe d'approcher. Les voilà donc, les prunelles qu'il a fixées sur la plage avec intensité. La gamine est jolie. D'après son gabarit, on lui donnerait 7 ou 8 ans, mais elle doit en avoir un peu plus. On dirait un oisillon tombé du nid. Ses grands yeux expriment un mélange d'étonnement et de soulagement à la découvrir ici, devant elle, et en vie. Chapitre 4. Léna tente d'engager la conversation, mais la petite ne dit pas un mot, pas même son nom. Elle disparaît et revient avec une assiette de poisson grillé que Léna dévore d'un trait. Une cuisine simple qui se révèle délicieuse. Puis, la gamine débarrasse et lui porte l'addition d'un air habitué. Léna descend régler la note auprès du tenancier. Elle essaye de lui expliquer que sa fille lui a sauvé la vie. Il ne comprend pas. Elle va trouver sa femme en cuisine et la félicite pour le plat. Elle non plus ne parle pas anglais. Léna finit par quitter le dabba en laissant au couple un généreux pourboire qui semble le ravir autant que l'étonner. En s'éloignant, elle se demande ce qu'elle pourrait offrir à l'enfant. Elle n'a aucune idée de ce qui plairait à une petite indienne d'une dizaine d'années. Un livre, un jouet, une poupée, autant de présents dérisoires au regard de la situation. Si la famille mange, certainement à son goût, elle doit manquer de beaucoup de choses parmi tout ce qui reste à avoir, comme en témoigne l'état du restaurant. Léna songe à la jeune activiste, refusant l'enveloppe des billets. Elle ne veut pas renouveler l'expérience. Et puis, qui sait si l'argent reviendrait à l'intéresser elle-même. Comment en être sûre? Elle a entendu parler des problèmes d'alcool et d'addiction qui frappent de nombreux habitants de la région. Elle préférerait trouver un moyen plus discret de s'acquitter de sa dette envers la fillette elle-même. À la boutique de l'hôtel, elle fait l'acquisition d'un cerf-volant aux couleurs flamboyantes. Lorsqu'elle retourne au dabba le lendemain et le tend à l'enfant, le visage de la gosse s'éclaire. Il se fend d'un sourire qui se passe de tout commentaire. La petite s'élance aussitôt sur le sable pour étreiner son nouvel appareil. La toile claque furieusement tandis qu'il s'élève dans le ciel léger et ondulant. Léna prend l'habitude d'aller déjeuner chez James et Mary. L'adresse semble appréciée des gens du coin qui viennent s'y restaurer pour quelques centaines de roupies. 2 ou 3 euros pour un plat complet. La cuisine y est bonne, le poisson frais du matin. Léna se surprend à retrouver l'appétit. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas mangé ainsi. La gosse est là chaque jour, sentinelle muette et fidèle. Elle dresse les tables, sert et dessert, porte les menus, les cafés, avec la même discrétion. On a dû lui faire la leçon. Il ne faut pas déranger les clients. Elle obéit au patron qui s'agite en bas, à sa femme perpétuellement en cuisine. Personne ne s'étonne de sa présence ici. C'est la fille de la maison, comme on dit. Chaque matin, elle descend sur la plage avec le cerf-volant pour quelques instants voler aux journées sans. C'est le seul moment où Léna la voit courir et jouer. Le seul où elle redevient une enfant loin de l'astreinte du restaurant. Léna s'assoit sur le sable et la regarde s'élancer dans le vent. À cette heure que nul bruit ne vient troubler, elles sont deux âmes solitaires à se partager le spectacle de la mer dans la lumière du soleil levant. Malgré les tentatives d'approche de Léna, la fillette ne parle pas. Elle ne prononce pas un mot. Accaparée par l'activité du Daha, ses parents ne lui accordent aucune attention. La seule compagne de la gosse est une poupée usée et rapiécée qu'elle traîne partout comme un talisman et dont elle ne se sépare jamais. Un jour, Léna a une idée. Elle saisit un bâton et inscrit son prénom sur le sable mouillé. Elle invite la fillette à faire de même. La petite se fige, désemparée. « Comment tu t'appelles ?» insiste-t-elle. La gosse l'observe tristement avant de s'éloigner. Léna reste perplexe. Cette petite l'émeut plus qu'elle ne saurait le dire. Pourquoi refuse-t-elle de communiquer? Il y a dans son silence un mystère, un secret qu'elle aimerait découvrir, comme un chagrin venu de loin qu'elle reconnaît. Alors, elle regagne l'hôtel, elle se fige à cette pensée. Se peut-il que la gosse ne sache ni lire ni écrire? Affairée toute la journée au restaurant, quand trouverait-elle le temps de s'instruire? Taraudée par cette question, Léna surprend la fillette le lendemain sur la plage, en train de recopier de mémoire les lettres qu'elle a tracées. Léna. Elle sourit, touchée. L'enfant désigne la mère à quelques pas. Tu veux te baigner? Jouer? Non, ce n'est pas ça. D'un air pressant, la petite attrape un bâton et le lui tend. Ça y est, Léna comprend. Elle inscrit le mot « si » S-E-A, mère en anglais, sur le sable. La gosse lève les yeux vers elle d'un air satisfait. Elle va alors chercher un coquillage, puis sa poupée, puis le cerf-volant qu'elle a pour un temps délaissé. À chaque fois, Léna trace le mot correspondant dans le sable. Quand vient l'heure de rentrer, l'enfant la quitte à regret, tandis que la marée montante vient recouvrir les lettres et qu'elles se sont pourtant appliquées à bien former. C'est vite une certitude pour Léna. La gosse ne va pas à l'école. Il n'y a aucun doute, elle n'y a jamais mis les pieds. À 10 ans, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle s'ingénie à recopier chaque mot que Léna lui apprend. Celle-ci la trouve le matin occupée à retranscrire ceux de la veille, sans modèle, dans cet alphabet qui n'est pas même le sien. Elle est surprise par la rapidité avec laquelle la petite les assimile. On dirait qu'elle les photographie, les enregistre pour les restituer intactes sur le cahier de sable improvisé. Léna sait qu'ici, les classes les plus pauvres n'ont pas accès à l'éducation. Une réalité inacceptable pour l'enseignante qu'elle a été. Certes, l'enthousiasme et l'entrain de ses débuts se sont émoussés au fil du temps, comme la passion s'érode dans un vieux couple. Les classes surchargées, les conditions matérielles souvent précaires, les moyens insuffisants, le manque de reconnaissance générale vis-à-vis de sa profession ou l'inertie d'une certaine administration ont rogné ses ailes, amoindri son élan. Les dernières années, elle se sentait moins investie, se surprenant parfois à attendre avec impatience la fin de la semaine ou le prochain départ en vacances. Elle a toutefois continuer son chemin, animé de la certitude que l'instruction est une chance, un droit fondamental qu'il était de son devoir de transmettre et de partager. Comment admettre alors que cet enfant en soit privé? Léna se met en tête d'aller parler à ses parents. Il faut qu'elle trouve le moyen de communiquer avec eux, de leur expliquer que leur fille est intelligente, qu'elle a des capacités, qu'elle peut échapper à cette vie de misère s'ils lui donnent la possibilité de suivre des études. Eux-mêmes sont sans doute illettrés, comme de nombreux habitants du village. Léna voudrait leur dire qu'il ne s'agit pas d'une fatalité, qu'ils ont le pouvoir d'inverser le cours des choses en lui offrant la chance qu'on leur a refusée. Un midi, alors que le service touche à sa fin, elle entreprend d'engager la conversation avec le patron. L'homme est en train de ranger les tables que l'enfant a débarrassées. Léna s'avance en désignant la petite à ses côtés. « School !» dit-elle. L'homme grommelle quelques mots en tamoul en secouant la tête. « No school, no !» Léna n'en démord pas. « The girl should go to school !» insiste-t-elle. Mais le père demeure imperturbable. D'un geste, il montre le restaurant et semble dire qu'il y a trop à faire ici. « No school, no !» Pour conclure ce semblant d'échange, il ajoute un mot qui glace Léna et la foudroie. « Girl, no school !» La phrase tombe comme un couperet, une punition. Pire, une condamnation. Léna reste sans voix. À regarder la petite s'éloigner, munie de son éponge et de son balai, elle a envie de hurler. Elle donnerait n'importe quoi pour transformer ses accessoires en stylo, en cahier. Hélas, elle n'a pas de baguette magique. Et l'Inde n'a rien d'un décor de conte de fées. Naître fille ici est une malédiction, pense-t-elle en quittant le daba. L'apartheid commence à la naissance et se perpétue de génération en génération. Maintenir les filles dans l'ignorance est le plus sûr moyen de les assujettir, de museler leurs pensées et leurs désirs. En les privant d'instruction, on les enferme dans une prison à laquelle elles n'ont aucun moyen d'échapper. On leur retire toute perspective d'évolution dans la société. Le savoir est un pouvoir. L'éducation, la clé de la liberté. Léna enrage de n'avoir pu répliquer face à cet homme dont elle ne parle pas la langue, les mots lui ont manqué. Elle refuse pourtant d'abandonner la partie. La gosse lui a sauvé la vie. Elle se doit de lui rendre la pareille, tout au moins d'essayer. Elle songe soudain à la chef de la Red Brigade, à son aplomb face aux policiers sur la place du marché. La jeune femme est une figure locale, connue dans le quartier. Sa parole aurait plus de poids que celle de Léna. Et si ce n'est pas le cas, elle pourrait au moins se faire comprendre, argumenter. Léna sait qu'elle a besoin d'une alliée. Seule, elle n'y arrivera pas. Si les mots « liberté » égalité n'ont pas de sens ici, il lui reste l'espoir de la fraternité. Dans sa chambre, elle retrouve le tract ramassé dans l'allée. Au dos figure l'adresse du QG de la brigade. Elle quitte l'hôtel sans tarder et avise un rickshaw dans la rue. En guise d'indication, elle tend le prospectus au chauffeur qui la dévisage d'un air étonné. Dans un anglais approximatif, il tente de lui expliquer que ce n'est pas un quartier pour elle. « No good for tourists », dit-il. Il évoque les sites et les monuments vers lesquels se pressent habituellement les étrangers. Krishna's Butterball, Ratha Temple, very beautiful, répète-t-il. Lena s'entête. En soupirant, l'homme finit par s'exécuter. Tandis qu'il quitte le bord de mer, elle voit le paysage se transformer en une succession d'habitations misérables, d'échoppes et de cahutes précaires. Certaines paraissent si fragiles qu'elles menacent de s'envoler au moindre souffle d'air. Pourtant, proche, son hôtel semble à des années-lumière de là. Les deux mondes se côtoient sans se rencontrer. Les enceintes des établissements touristiques délimite un espace protégé qui ne laisse rien passer de la misère environnante. Le rickshaw s'arrête devant un garage en parpaing flanqué d'une cour emplie de carcasses de voitures et de pneus crevés. Lena est surprise, mais l'homme affirme qu'il s'agit bien de la bonne adresse. Il redémarre aussitôt et ne tarde pas à l'abandonner, inquiète, au pied du bâtiment délabré. Nous avons vu précédemment que Lena a été sauvée de la noyade par la Red Brigade. C'est une enfant qui jouait au cerf-volant et qui est allée les appeler. Reconnaissante de son salut, pour la circonstance, Lena veut persuader le propriétaire de la Daba, sorte de restaurant qui fait travailler l'enfant, qu'il serait bon pour elle d'aller à l'école. Mais peine perdue. Il n'en est pas question. Elle est là pour travailler au restaurant. De plus, un problème de langue parlée est un handicap entre les différents protagonistes. Que faire ? C'est alors que Lena pense à la Red Brigade. La jeune femme qui semble en être la chef paraît avoir une autorité incontestable et reconnue par beaucoup de gens. Elle va la contacter. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de l'émission « Je lis pour vous ». N'hésitez pas à nous suivre sur Radio Alliance Plus 103.2 en FM et en DAB+. En direct ou sur notre site www.radioallianceplus.fr en podcast. Vous pouvez aussi me retrouver dans l'émission La Brève de Je lis pour vous et qui parle de lecture et signification de citations ou de dictons tels que Riche comme Crésus ou Faire l'école buissonnière. C'est le samedi à 7h45 sur le site de la radio. À bientôt, chers amis! Au revoir.